crois qu'il est encore bon de voir quelques aspects de cette topique sur la personne, hein, essayer de comprendre comment il y a toujours cette vision entre nature et esprit, et que très nettement, dans la pensée moderne, on peut dire, la contemporaine, il y a ce poids de la conscience et de l'esprit qui l'emporte. Vous allez voir progressivement. Alors, je vous disais qu'il y a cette perspective qui est intéressante de voir personne et valeur. Alors, c'est toute la philosophie des valeurs qu'il faudrait essayer de comprendre ici. Ce qui est difficile à saisir, hein. Qu'est-ce que c'est que la valeur ? C'est pas comme homme. Est-ce que c'est la cause exemplaire ? C'est la cause finale ? C'est plus que la cause exemplaire, c'est moins que la cause finale. C'est un entre-deux. Et je crois que c'est un aspect qui est important. On en parle beaucoup moins aujourd'hui au point de vue philosophique, on en a beaucoup parlé il y a 50 ans. C'était l'axiologie, comme on disait. Enfin, l'axiologie, c'est la philosophie de valeur. Alors, nous avons déjà relevé chez Max Scheler, ainsi que chez Nicolas Hartmann, une considération axiologique de la personne. Pour Lavelle, il y a eu tout un courant de Lavelle, qui était extraordinaire, hein, qui était très net. Pour Lavelle, la personne se définit comme l'esprit qui met la valeur en œuvre et qui ne se détermine que par elle, ce qui justifie la valeur absolue de la personne. Il n'y a personne et valeur. Et la personne est elle-même mangée par la valeur. Elle est la valeur suprême, la valeur absolue. La personne, c'est l'esprit même considéré en tant que liberté, ou, puisque c'est la liberté qui le fait être, elle est l'esprit en tant que possibilité, en tant que conversion éternelle de la possibilité en actualité. C'est pas de moi, ça, hein, c'est de la veille. Je n'en porte pas la responsabilité. Vous voyez bien que c'est assez difficile à comprendre. Hein. Vous avez personne, valeur. Alors ça se définit. Parce que d'un fait, la personne va se définir comme la valeur suprême. La personne est liée à la valeur. La personne est le lieu de la valeur, je crois qu'au fond c'est ça que ça veut dire. En dehors d'une personne, il n'y a pas de valeur. Pour une vache, il n'y a pas de valeur. Je ne crois pas. Le TGV ne représente pas la valeur ultime et dernière pour la vache qu'il voit passer. Non. Pour l'homme, ça peut représenter une valeur nouvelle, qui est représentative de nos temps actuels, et ainsi de suite. Alors la personne est le lieu de la valeur, et la personne est la valeur. Et là, c'est question de la liberté, c'est ça qui est difficile à voir. Personne, liberté, valeur et liberté. C'est peut-être la liberté qui fait le joint. Vous voyez, si je relis attentivement ces phrases, que j'ai prises comme celles qui sont les plus significatives, la personne se définit comme l'esprit qui met la valeur en œuvre et qui ne se détermine que par elle. La personne ne se détermine que par la valeur. Et la personne met la valeur en œuvre. C'est le lieu de la personne. La personne, c'est l'esprit même considéré en tant que liberté. Car, puisque c'est la liberté qui le fait être, elle est l'esprit en tant que possibilité. La liberté, c'est la possibilité. Si il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas de liberté. Dans un jeu où tout est absolument nécessaire, il n'y a pas de liberté. Donc, la liberté présuppose la possibilité. Et la possibilité, c'est l'être en puissance. Et c'est d'une certaine manière ce qui conditionne la possibilité de nouvel être. Et donc, c'est ce qui ouvre l'être, la possibilité. L'être est fermé, il est en soi sa liberté. Tandis que dès qu'il y a la liberté, il y a quelque chose qui ouvre. On ouvre une fenêtre à la liberté. Tandis que quand les fenêtres sont fermées, c'est l'être en soi. C'est comme ça qu'il faut le concevoir, pas autrement. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Donc c'est l'être, la fenêtre ouverte, c'est la liberté. L'oiseau peut partir, peut s'envoler. Alors c'est la personne est liée à la liberté, liée à la possibilité. Et la valeur, c'est quand même lié aussi à la liberté et à la possibilité. Est-ce que dans un monde de nécessité, y aurait-il encore des valeurs? Il faut se poser comme ça la question. Dans un monde de nécessité pure, y aurait-il encore des valeurs? Est-ce que la valeur n'a pas... Est-ce que la valeur apparaît avec le point de vue de la possibilité de la valeur? C'est ça que c'est fondement de la valeur. Est-ce que la valeur est du côté... L'air vaste de la causalité finie. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour comprendre ce que c'est que la valeur. Et liberté et possibilité, c'est la structure qui fonde cette valeur. Et la personne, c'est le lieu. C'est le sujet de la valeur. C'est le lieu de la valeur. La personne, c'est l'esprit même considéré en tant que liberté, ou puisque c'est la liberté qui le fait être, elle est l'esprit en tant que possibilité, en tant que conversion éternelle de la possibilité en actualité. Alors ça, c'est tout à fait lumineux. La personne représente en nous le sommet de la conscience et de la liberté. Le point où nous sommes créateurs de nous-mêmes et de notre propre expérience du monde. Je ne dis pas plus. La veille, c'est la conscience, c'est la liberté, c'est la valeur. De nouveau, Michael Schiappa définit la personne par la valeur. Schiappa, ça a été un grand philosophe chrétien, italien, un homme merveilleux, du reste. Comme humilité, comme esprit chrétien. C'est pas ça qui fait nécessairement que la philosophie soit merveilleuse. Mais ça fait rien, c'est quand même bien, c'est quand même plus sympathique, si vous voulez. Le sujet humain, en tant que personne, c'est lui qui dit ça, est existence de valeur. C'est le lieu de la valeur. Qui s'actue dans la communion avec les personnes et en celle de chacune et de toutes avec la personne absolue. Alors de nouveau, nous retrouvons l'ontologie qu'on avait déjà vu. Au fond, la personne absolue, c'est la personne de Dieu, immanente à toutes les autres personnes, et qui actue toutes les autres personnes, et qui permet aux autres personnes d'exister, et l'existence de la personne implique le point de vue de la valeur. L'être de l'homme, comme individu et comme personne, exige précisément, parce qu'existence de valeur, la réalisation intégrale et donc toujours insuffisante de toutes les valeurs. La véritable infirmité de l'homme, infirmité très noble, qui le met au-dessus de tous les êtres vivants, est cette vocation fondamentale, ne pas pouvoir ne pas aspirer à sa plénitude d'être, inactuable dans le fini, et vivre dans le fini, il est dans le monde, n'étant pas fait pour le monde. Alors vous retrouvez cette fameuse chose que dans tout l'existentialisme on retrouvera, l'homme, l'être dans le monde. Et en même temps, il n'est pas fait pour le monde. Il y a quelque chose qui le dépasse. Alors c'est toujours très délicat de bien définir l'être dans le monde. L'être dans le monde, au fond, c'est ce que nous disions avant, la nature. Et en même temps, qui dépasse le monde, c'est ce que nous disons l'esprit. Donc nous retrouvons les mêmes réalités exprimées de façon tout à fait différente. On retrouve quand même quelque chose qui est toujours la même notion, c'est qu'à la fois la personne, dans son individualité, elle est dans le monde, et en même temps, parce qu'elle est au-delà, il y a quelque chose d'infini en elle. Vous voyez, personne, liberté, possibilité, valeur, là on voit le dépassement. Et on pourrait dire que le point de vue de la valeur, c'est vraiment ici de comprendre le dépassement. Il y a quelque chose qui transcende. La valeur, c'est ce qui transcende. Et en même temps, qui demeure dans l'immanence. Donc, vous voyez, nature, personne. Nature, esprit. L'esprit, c'est ce qui transcende. La nature, c'est l'immanence. Alors, on retrouve perpétuellement ces différents aspects. Liberté et possibilité, c'est de montrer une possibilité à l'intérieur de l'immanence de transcender. Alors, c'est exprimé de multiples manières, comme toute la pensée moderne, c'est-à-dire avec des choses qui ne sont plus très précises. C'est plutôt le langage ancien, on voit nature, vie, esprit, ça c'est net. Tandis que là, on essaie de le donner dans le vécu. Arrêtons-nous à la manière dont Fiacre conçoit la distinction de l'individu et de la personne. L'individu, affirme Fiacre, est substance, c'est-à-dire essence qui est. Voilà comment il définit la substance. Hein? L'essence qui est. C'est intéressant, ça montre que la substance, c'est nécessairement la substance première, l'essence qui est, puisque l'essence est la substance seconde. Et l'essence qui est, c'est donc la substance première. Donc l'individu, affirme Schiappa, est substance, et est donc un et incommunicable. En ce sens, tout être organique est individu, mais l'individu n'est pas encore sujet. Le sujet, c'est l'individu sentant, c'est-à-dire doué d'un principe actif, ayant en soi la raison de sa propre réalité. Le sujet est cause de lui-même dans l'ordre de la nature, mais non principe de lui-même. Le sujet humain est plus que sujet sentant, car il a l'intelligence ou l'intuition de la vérité première, ou de l'être comme idée. Donc le sujet humain est plus que sujet sentant, là on resterait dans l'immanence, car il a l'intelligence, ou l'intuition de la vérité première, il a bien de chance, ou de l'être comme idée. Le sujet humain est donc un animal spirituel, qui n'est pas seulement porteur de valeur, mais est lui-même intrinsèquement une valeur. Quand le sujet humain devient conscient que c'est le même être qui sent, comprend, raisonne, veut, et que l'acte qui perçoit l'activité spirituelle est une activité identique à cette activité spirituelle, il se saisit comme moi. Le sujet spirituel comme tel est personne. Donc vous voyez que ça tourne autour, hein, c'est toujours un peu la même chose. C'est d'essayer d'insérer l'esprit ouvert à l'infini par rapport à quelque chose de déterminé qu'est l'individu. Le sujet, c'est l'individu. Le sujet sentant. Donc le sujet spirituel comme tel est personne. Fiacre peut donc résumer ainsi sa définition de la personne. La personne est individu, et donc substance, ou l'acte par lequel une essence est. C'est un individu qui est sujet. C'est un individu qui est sujet en ce sens qu'il est un individu sentant, mais un sujet intellectif, doué d'intelligence, doué d'intelligence de la vérité ou de l'être, et encore raisonnant et voulant, donc sujet humain, ayant conscience, comme une espèce d'union de soi avec le moi. La différence entre individu et personne, estime Fiacre, n'est pas négligeable, mais si l'homme est inséparablement individu, mais l'homme est inséparablement individu et personne. tous les principes actifs constituent le sujet humain, mais les principes vitaux, sensitifs et humains constituent sa nature d'individu, les principes spirituels, sa personne. Vous voyez là, Shaka, qui veut retrouver avec tout le point de vue de la scolastique, parce qu'il ne faut pas oublier, Shaka reste quand même quelqu'un, comme souvent en Italie, du reste, il n'y a pas la même opposition qu'en France par rapport à saint Thomas et par rapport à la scolastique. Les Italiens ont toujours un souci de rattacher la pensée moderne à la pensée traditionnelle de la scolastique. Tandis qu'en France, il y a une coupure, hein, ça c'est très net. C'est Descartes qui a fait cette coupure. Alors, il n'y a aucun souci de cela. C'est plutôt un souci d'opposition. Tandis qu'en Italie, il y a un souci d'intégration. Et alors, on voit très bien ces derniers aspects, ces derniers... Tout ça, c'est de Schiappa. Je vous ai cité textuellement ce qu'il dit. Tous les principes actifs constituent le sujet humain. Mais les principes vitaux, sensitifs et humains, sa nature d'individu. Les principes spirituels, sa personne. Donc vous auriez ceci dans la perspective de Schiappa. Vous auriez donc la nature individu. C'est tous les principes vitaux. Donc c'est le vivant. La nature nous fait comprendre ce que c'est que le vivant. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus. Il faut comprendre qu'on est en face d'une nature spirituelle. Donc l'esprit. Ce vivant est esprit. Vous voyez bien, on retrouve exactement la même chose. Sans avoir avancé d'un pouce. La personne, c'est nature, individu et esprit. Alors, qui dit nature, qui dit vivant individuel, dit l'immanence. Hein. Je ne dis pas en termes modernes, c'est l'immanence. Qui dit esprit, dit éclatement des passions. C'est comme Saint-Pierre ne cesse de dire que l'homme implique toujours un dépassement. Vous trouvez toute cette tendance d'essayer de comprendre comment, à travers l'immanence du vivant, il y a un dépassement d'esprit. Comment concevoir ce dépassement? C'est la question là. Ça, c'est répété tout le temps. Schiappa distingue ensuite individualité-personnalité. L'individualité est le devenir de l'homme comme individu. La personnalité est le développement de l'homme comme personne. Ce n'est plus individualité, ce par quoi l'individu est individu, mais c'est le devenir. Ce qui permet à l'individu de devenir un individu. C'est très très curieux comme notion. Hein. Et c'est intéressant, je vais me demander pourquoi. J'espère que vous comprenez. Hein. L'intégration nouvelle qu'il y a dans la vieille formule ancienne, c'est ceci. Hein. Je vais commencer à le savoir. Hein. Blanc, blancheur. Blancheur, ce par quoi le blanc est blanc. Donc vous avez personne et personnalité. La personnalité, c'est ce par quoi la personne est personne. C'est ce par quoi. Et selon la scolastique, ce par quoi, c'est la cause formelle. Alors vous allez essayer d'introduire dans la cause formelle un principe de devenir. C'est-à-dire, vous regardez cette cause formelle comme la nature. La nature, qu'est-ce que c'est? C'est un principe de développement, de devenir. Et c'est en même temps cause formelle. Puisque c'est la nature prise comme forme. Alors, c'est le principe, ce par quoi la personne est personne, et ce par quoi la personne devient personne. Donc il y a quelque chose de très nouveau, c'est très curieux à voir. C'est pas bête, hein, c'est intéressant à voir ça. Parce que c'est essayer de quitter l'aspect purement formel de l'abstraction pour redécouvrir un principe naturel. chaque distingue. Ensuite, individualité, personnalité. L'individualité est le devenir de l'homme comme individu. Et la personnalité est le développement de l'homme comme personne. L'individualité est l'ensemble des actes naturels que nous appelons aussi humains, en tant qu'appartenant à l'individu homme, mais par eux-mêmes non personnels. Ils le deviennent avec l'intervention de l'activité spirituelle qui les assume en les transformant. Autrement dit, à l'individu correspond la vie instinctive, à la personne la vie spirituelle. C'est vraiment ce petit passage curieux. L'homme naît, naît cet individu. Et cette personne, en tant qu'il est doué de toutes les activités qui les constituent, dont le développement le fait ensuite individu et personne, avec une individualité et une personnalité, mais l'homme a la liberté de se faire cet individu et cette personne avec cette individualité et cette personnalité. Pas très très clair, mais on soupçonne un peu ce que ça veut dire. Chiaka précise encore, c'est encore une autre affirmation directement de lui. La formation de la personnalité comme celle de l'individualité. Mais dans ce dernier cas, le processus est en partie instinctif. La formation de la personnalité procède synthétiquement et par inclusion dialectique. C'est de plus en plus clair. Le nouvel acte ne s'ajoute pas de l'extérieur, mais refond la personnalité et la propose à nouveau, plus expressive de la valeur qu'elle incarne. Une telle formation ne procède pas par processus causal, mais par continuité initiative, et donc toujours originellement, même si instinctive, part du point de donner. Même si l'initiative part du point de donner. Il s'agit donc d'actuer la personne en la faisant personnalité. La personne est actuée par la personnalité. C'est le devenir, c'est l'actualité de la personnalité. Il s'agit donc d'actuer la personne en la faisant personnalité. La personnalité de tout homme est sa vocation. Se faire personne et développer sa personnalité propre signifie savoir être identique à soi-même, conforme à sa propre vocation. Famille, deviens ce que tu es. Hein, la formule du pape. Formule très difficile à comprendre, au point de vue scolastique. Famille, deviens ce que tu es. Cette formule qu'on m'avait demandé de faire une conférence à Toulouse là-dessus. Famille, deviens ce que tu es. C'est pour ça que j'ai réfléchi. Voyez. Alors, quelle est la signification? Quand on vous dit, devenez ce que vous êtes, alors qu'est-ce que vous répondez? Mais je le suis. Devenez ce que vous êtes. Alors, dans un langage chiacien, n'est-ce pas, ça veut dire tout simplement. Devient ce que c'est à votre question. Je dirais, c'est ce que j'ai dit. C'est la seule signification possible. Sa vie devient ce que tu es. C'est-à-dire, ce pourquoi tu es. Alors, dans le ce que tu es, c'est la finalité. Devient ta finalité. Donc, réponds à ta vocation. Alors, vous voyez que ce langage, qu'est-ce qu'il y a de confus dans ce langage? Il faut toujours essayer de comprendre dans des formules comme ça. Bon, moi, je veux bien, entrons dans des formules. Mais sachons ce que cette formule cache. Autrement, alors à partir de ce moment-là, c'est du bavardage. Et vous avez tout à fait le droit d'employer une formule, vous savez ce que font les gens pour la propagande. Hein. Alors, on a le droit de prendre une formule pour la propagande, pour une affiche, c'est de la propagande. Alors, pour un titre, c'est de la propagande. Alors on prend une formule, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Famille, devient ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'actuation ultime et dernière de toutes les potentialités qu'on a en nous. Donc c'est la finalité. C'est l'actualité, c'est l'énergéillant d'Aristote. Famille devient ton énergéillant. Ce serait beaucoup mieux comme titre. Hein? Alors à ce moment-là, c'est. Non, pas ton énergéillant, ton intellectéillant. Famille devient ton intellectéillant. Deviens ce que tu dois devenir, ce que tu dois être. Deviens ce que tu dois être. Ce serait déjà beaucoup plus intelligible. Hein? Ce que tu dois être, c'est-à-dire ta vocation. Eh bien, c'est ça. Vous voyez, on comprend quand on regarde les fondements de certains aspects modernes qui reposent sur un certain contexte. Et le pape est en Italie. Donc il y a l'influence chacienne. N'est-ce pas? Ça ne peut pas être autrement. La personnalité de tout homme est sa vocation. Se faire personne et développer sa personnalité propre signifie savoir être identique à soi-même, conforme à sa propre vocation. L'identité personnelle est un principe existentiel. Cette personnalité, cette identité propre ne peut se réaliser qu'en communion et non en rapport avec d'autres personnes dont chacune est reconnue dans sa propre personnalité. La personne s'actue elle-même en répondant à la vocation fondamentale et principale à l'être. Son principe et sa fin. L'être avec un grand être, un grand E, n'est-ce pas ? À l'être. Son principe et sa fin. La personnalité d'un homme, son nom authentique et son être personnel par l'être, c'est pourquoi la personnalité est une valeur sacrée. Alors, oui, tout l'ontologie, ce qui est souvent ça, c'est aussi la vôtre. L'actualité de la personne, c'est au fond répondre à sa vocation c'est d'être unie à Dieu, et donc son actualité c'est d'être unie à Dieu. Alors, c'est que la personne, c'est pour ça qu'elle s'appelle. Alors, je crois que c'est intéressant de rappeler cette théorie des valeurs, vous voyez, je ne dis pas plus. C'est intéressant, mais vous voyez que sous-jacent à cette théorie des valeurs, il y a un ontologisme qui demeure. Parce que la valeur prise en grand, c'est Dieu. En définitive. Et les petites valeurs, c'est le reflet de Dieu dans notre esprit et dans notre volonté. Ce n'est pas la finalité, mais c'est le reflet de la valeur première dans notre intelligence, dans notre esprit et dans notre volonté. Alors à ce moment-là, on comprend comment la personne est liée à la valeur et comment, liée à la valeur, elle va rejoindre en définitive sa vocation. Et sa vocation, c'est d'être, de découvrir la valeur suprême. Alors, je vais dire un petit mot ici d'une perspective un peu différente. On va arriver du reste alors à Maritain. Il y avait tout le personnalisme de Mounier. Quand on parle de la personne en France, on ne peut pas ne pas parler de Mounier. Alors, vous savez, c'était Mounier. Mounier, il y a 50 ans, 70 ans, Mounier était un grand homme. C'était quelque chose d'extrêmement important, le personnalisme. Mounier a fondé la revue Esprit. Et c'est le premier numéro de Esprit qui montre le mieux cette perspective de Mounier. Mounier souligne que le personnalisme n'est pas un spiritualisme. Tout au contraire, il saisit tout problème humain sur toute l'ampleur de l'humanité concrète. De la plus humble condition matérielle à la plus haute possibilité spirituelle. C'est dans cette perspective que Mounier comprend la distinction de l'individu et de la personne. L'individu, c'est la dissolution de la personne dans la matière. Dans le personnalisme communautaire, ça. L'individu, c'est la dissolution de la personne dans la matière. Mounier parle aussi d'un processus dégradant d'individualisation. opposé à un processus enrichissant de la personnalisation qui répond à un appel transcendant. Voyez, donc, là encore, vous voyez bien ce point de vue individu et personne chez Mounier. On va revenir sur d'autres perspectives, mais c'est intéressant de voir que individu. Processus de l'individualité conduit à la matière. Le point de vue de la personne conduit à la transcendance. C'est lié à l'esprit. Ici, c'est lié à la matière. Vous voyez bien, d'une autre manière, immanence et transcendance. C'est les deux qu'on trouve. L'immanence suprême de l'individu, c'est la matière. Et puis le poids de la matière, c'est l'individu. Et c'est très vrai, vu d'un point de vue sociologique. Le poids de l'individu, une communauté 80, c'est plus lourd à porter qu'une communauté 10. Le poids de la matière. C'est ça qu'on rêve d'une petite communauté de 10. Si on avait suffisamment d'argent, on ferait des couvents modernes avec des petites communautés de 10. Vous voyez, c'est merveilleux. Hein. Alors on aurait une vie à la fois de 10, pas plus, avec un aîné. Puis de temps en temps, on réunirait la grosse communauté, n'est-ce pas, de tous les 10, n'est-ce pas? Alors ce serait quelque chose de merveilleux. On rêve ça, et ce serait très intelligent, parce que ce serait le problème de l'individu et de la personne qui se réglerait de cette manière-là. Parce que c'est évident que l'individu et le poids de l'individu, c'est terrible. La matière, c'est effrayant. C'est lourd à porter. L'individu, on lui a coupé les ailes pour qu'il puisse être partie de la masse. Alors, une fois qu'il est partie de la masse, bah oui, il n'y a plus que additionner les individus. Avec les personnes, ça ne s'additionne pas, ça des ailes. Très curieux ça, mais c'est très important de voir ça chez Mounier, voyez, pour mieux comprendre ce que dira Maritain, parce que les deux sont contemporains d'une certaine manière. Hein. C'est vrai, il y a deux points de vue assez différents, puisque l'un est beaucoup plus proche de Saint Thomas, du moins désire l'être, Maritain, tandis que Mounier est assez loin de Mounier. Bien que, hein, j'ai vu l'autre jour quelqu'un, un jeune étudiant, un garçon que je connais bien, qui donne des cours de philosophie à Passy-Bouzinval, qui fait partie du renouveau, parce que le renouveau a pris possession de Passy-Bouzinval pour redonner de l'esprit. C'est très bien, mais depuis qu'ils sont là, il y a un progrès spirituel très très net. Bien, lui, il est un philosophe, professeur de philosophie, et il s'intéresse à Mounier. Alors il a vu la veuve, et la veuve lui a donné tout Saint Thomas que Mounier a noté. Saint Thomas a lu, Mounier a lu la somme et l'a noté. Saint Thomas. Donc il y a cet effort de compréhension. Comment l'a-t-il compris, c'est autre chose. Mais cet effort de saisir comme un penseur chrétien, qui se veut penseur chrétien, saisir ce que représente toute une tradition. Dans le personnalisme, où la pensée de Mounier semble plus nuancée, « Je suis personne dès mon existence la plus élémentaire. » Ça, c'est intéressant. « Je suis personne dès mon existence la plus élémentaire. » Et loin de me dépersonnaliser, mon existence incarnée est un facteur essentiel de mon assiette personnelle. Vous voyez, pour vous promener avec votre assiette personnelle, hein. Mon existence incarnée est un facteur essentiel de mon assiette personnelle. Mon corps n'est pas un objet parmi les objets, le plus proche des objets. Comment s'unirait-il à mon expérience de sujet? En fait, les deux expériences ne sont pas séparées. J'existe subjectivement, j'existe corporellement. Sont une seule et même expérience. Donc, vous voyez, là, l'effort qu'il fait de montrer l'enracinement de la personne dans le corps. Je peux peut pas séparer les deux. La personne est incarnée, bien évident, elle est incarnée. Elle est totalement incarnée. Elle est incarnée dans mon assiette personnelle, mais c'est quand même quelque chose de très incarné. C'est quelque chose de très net et de très vivant. Alors, Mounier estime qu'on ne peut définir la personne car elle n'est pas un objet. Vous voyez, ça, on répète ça aujourd'hui tout le temps. La personne n'est pas un objet. Il faut bien voir d'où ça vient. Je crois que ça vient avant Mounier, c'est bien évident, mais ça a été vulgarisé par Mounier. On ne peut pas définir la personne car elle n'est pas un objet. On ne définit qu'un objet. L'objet, c'est ce qui est mesuré, c'est ce qui est mesurable. Voilà la notion de l'objet. C'est très très loin de l'objet tel que saint Thomas en parle. C'est l'objet de la connaissance positive. On n'a pas le droit de s'arrêter à ça. Très bien, entrons dans le langage. Ça fait partie de la propagande. Mais c'est pas ça, l'objet. Donc, la personne n'est pas un objet. Elle ne peut pas être un objet parce qu'elle n'est pas définissable. Et ne peut se saisir que de l'intérieur. C'est tout à fait juste. Elle est la seule réalité que nous connaissions et que nous faisions, que nous fassions en même temps du dedans. Elle est une activité vécue d'auto-création, de communication et d'adhésion. Qui se saisit et se connaît dans son âme, comme mouvement de personnalisation. Un mouvement de personnalisation. Et la personnalité, la personnalisation. On a décliné ça, vous voyez, personne, personnalité, personnalisation. On devient de plus en plus personne, c'est ça que je veux dire, personnalisation, hein, la conscienciation. On devient la conscience qui prend possession d'une chose. Ce sont des mots qui se sont créés il n'y a pas si longtemps. Avant, on n'aurait jamais osé dire ça. Et je crois que c'est pour montrer l'activité dans l'immanence. C'est ça la personnalisation. C'est une activité qui vient de l'intérieur et qui vient du terrain. Alors, tout ça est juste. Tout ça est juste. Elle est une activité vécue d'auto-création, d'auto-communication, d'auto-adhésion. Je crois qu'il faut répéter l'auto, ça vaut mieux, trois fois, comme ça on comprend mieux, qui se tient et se connaît dans son âme. Elle se tient, qui se saisit et se connaît dans son âme. Comme mouvement de personnalisation. Le progrès qui se fait, qui se saisit et se connaît dans son âme. Alors, art, vous voyez que c'est l'opération. Au sommet, c'est l'intellectuel. La personne se révèle à nous sous divers aspects. Son incarnation qui la conditionne, sa vocation qui l'unifie et l'appelle à se dépasser indéfiniment. Sa liberté, qui est une liberté d'engagement, la liberté de découvrir elle-même sa vocation, d'adopter librement les moyens de la réalisation. De la réaliser. Enfin, la communion, en vertu de laquelle la personne est une présence dirigée vers le monde et vers les autres personnes. Donc, je crois que là, vous voyez, j'ai essayé de résumer, parce que c'est descriptif, hein. C'est vraiment descriptif. Alors, on voit très bien, la personne, c'est quelque chose qui se saisit de l'intérieur. Vous ne pouvez pas saisir une personne de l'extérieur. Quelque chose qui se saisit de l'intérieur. Pourquoi dit-on ça? Parce que l'objet est vu uniquement comme le point de vue de la mesure. Alors, la personne ne se mesure pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas la mesurer. Mais je la saisis de l'intérieur dans ses différentes activités. Alors, vous voyez, ces différents moments, c'est son incarnation, c'est la personne qui assume l'individu. C'est ça, profondément, qui assume le corps et l'individu. C'est son incarnation. Sa vocation, C'est l'aspect de la finalité qui l'unifie et l'appelle à se dépasser indéfiniment. Sa liberté, c'est sa structure, qui est une liberté d'engagement, la liberté de découvrir elle-même sa vocation, d'adopter librement les moyens de la réaliser. Je crois que vous avez là, au sens propre, vous voyez, toute une étude très précise et intéressante sur la personne. L'incarnation, donc la personne avec le corps, c'est l'incarnation. Vous avez ensuite sa vocation. C'est évident qu'une personne a une vocation. Qu'est-ce que c'est qu'au fond, par une petite finalité ? C'est la finalité. Puis la liberté, la structure. Alors vous avez causalité matérielle, causalité générale, causalité formelle. Tout ça dans l'exercice de la causalité efficace. Une très belle petite synthèse. Vous voyez comme c'est. C'est vu d'une façon descriptive. C'est pas de la phénoménologie, ça ne veut pas être de la phénoménologie. Au fond, pratiquement, c'est, j'aime mieux d'une certaine manière, c'est le vécu de la personne. Quel est le vécu de la personne? Quel est votre vécu de personne? C'est très facile à comprendre. On peut tous comprendre ça. Mais avec une personne, c'est de me balader dans mon corps. C'est mon assiette. Mon assiette, c'est que j'ai tout le temps, non? Alors, je me balade avec mon corps. C'est évident que la personne fait ça. Il y a dans les rêves, vous quittez votre corps. Alors, on va très bien. Vous êtes aérien. Normalement, vous êtes ligoté à votre corps, ce qui est terriblement gênant pour ma personne. Ma personne, tout le temps, se promenait avec mon corps. Gênant. Je voudrais bien, de temps en temps, le laisser de côté et puis me promener. Alors, on verrait ma personne. Mais dans toute sa limpidité, dans toute sa perte. Tandis que là, c'est lourd, c'est opaque, c'est terrible. Hein. Puis c'est terriblement individualisé, c'est limité cette personne. On voit très bien, Mounier, ça. Petit reste d'idéalisme. Hein. Petit reste d'idéalisme. Le vécu de la personne dans le corps. Pour amener des descriptions. Hein. Le vécu de la personne. Passant par l'assiette personnelle. C'est le repas, on voit très très bien. Alors le vécu. Le vécu de la personne dans ce cas-là de plus spirituel sa vocation. Je rêve à ma vocation. C'est beau, ça, c'est évident. Là, la personne est beaucoup moins encombrée du corps. Elle rêve de la vocation. C'est la vocation qui l'unifie et l'appelle à se dépasser indéfiniment. Vous voyez l'idée de la valeur, hein, l'idée à la vocation. Enfin, c'est très propre. Vocation, valeur. J'aime mieux vocation que valeur. Vous voyez, ça évoque plus une finalité. C'est un peu plus réaliste. C'est au fond, ça se touche. Parce que la vocation est prise. Non, pas du tout, vous voyez. Quelle différence est-il entre vocation et finalité? J'aime mieux prendre le terme finalité. Eux prennent le terme vocation. Pourquoi? Parce que la vocation, c'est la finalité des plus intérieurs. C'est l'appel. C'est l'appel, il est appelé. Alors, écoutez l'appel, qui le renvoie, qui vous attire. Alors c'est l'appel, il est appelé. Et c'est un défi. Puis alors, le point de vue, le dernier, c'est intéressant, sa liberté. Les trois. Corps, vocation, liberté. Et la personne fait la synthèse vécue des trois. C'est assez beau, hein? Corps, vocation, liberté. Une trilogie. Liberté qui est une liberté d'engagement, la liberté de découvrir elle-même sa vocation, d'adopter librement les moyens de la réaliser. Donc la liberté est à l'intérieur. Il n'y a pas de liberté à l'égard de votre corps. Hein? Vous ne pas changer. Un vieux moteur, ce serait comment, hein? Pourrait changer ce moteur en disant, il a vécu 30 ans, c'est déjà pas mal, hein, on a le droit d'avoir un nouveau moteur, un nouveau modèle maintenant, alors on va changer. Non, pas de liberté à l'égard du corps, on est en fou dedans. Enfin, la communion en vertu de laquelle la personne est une présence dirigée vers le monde et vers les autres. Alors vous avez enfin la communion.
la communion, c'est la communication, c'est l'efficience. Hein. L'efficience, elle est présente dans tout, mais elle est peut-être plus présente dans la communion. Bonum diffusivum. Hein. Le bien est diffusif de soi. Il s'abandonne. Hein. C'est la communion. Alors, on voit très bien la communion avec les autres. C'est le dernier aspect de l'efficience, c'est la communion. Ça, il faut se retenir. C'est très facile à voir. C'est beau. C'est beau, c'est spirituel, c'est quelque chose de grand. Mais évidemment, ça n'a pas beaucoup d'analyse philosophique.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus le fruit de vos entrailles.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.